7 milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide. Pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue. C'est l'été chez 7 milliards de voisins et nous prenons le temps d'une série d'étés pour comprendre comment nous vivons ensemble dans les villes du monde. Hier, nous étions à Abidjan. Aujourd'hui, vivre dans une ville sous cloche, Pékin, en Chine. Bonjour Stéphane Lagarde.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Je ne sais pas s'il est utile que je vous présente aux auditeurs. Correspondant de RFI en Chine pendant près de 3 ans et demi, c'est bien ça?
C'est ça.
Et comme tous nos invités, c'est vous qui avez choisi le titre de l'émission « Vivre dans une ville sous cloche, Pékin ». Pourquoi donc?
Parce qu'on est un peu dans une bulle dans chacun des quartiers de Pékin. Donc la cloche, l'esprit village. Moi je trouve que c'est une immense ville, mais c'est aussi l'esprit village. Vous verrez pourquoi dans les ruelles de Pékin, on vit comme ça. Puis sous cloche parce que c'est la capitale des empereurs, la capitale qui donne aujourd'hui encore l'heure jusqu'au Xinjiang, donc une capitale politique très surveillée, sous cloche. Et puis bien sûr la pollution, hein, on vit sous cloche parce qu'il y a quand même, c'est grillé hein, Pékin.
Et vous signez également la programmation musicale de l'émission, Stéphane Lagarde, où tout ce que vous voulez savoir sur la vie à Pékin, et bien sûr toutes vos questions, les voisins et les voisines, sur le fil Facebook ou sur Twitter. Chez 7 milliards de voisins aujourd'hui à Pékin avec Stéphane Lagarde qui signe la programmation musicale. On vient d'entendre Bling Bling Bling. Il paraît que c'est un groupe de Pékin avec une chanteuse un peu déjantée.
Alors Fouran, ouais, elle est magnifique cette jeune fille. Elle est en combinaison souvent moulante, rouge. Elle aime beaucoup le rouge par exemple. Elle a les cheveux fluo, orange parfois. Et c'est un groupe complètement dingue qu'on voit sur les scènes. La scène musicale est assez animée à Pékin. Alors, ça s'appelle Quincy Big Shark.
Le groupe.
Et là, on entend dans la chanson Nali Shewodejia, c'est ma maison ici. C'est vraiment un groupe pékinois qui est très connu des Pékinois.
Il y a beaucoup de concerts à Pékin, beaucoup de scènes musicales, vous le disiez, malgré la première des cloches à Pékin, vous nous le disiez, Stéphane Lagarde, c'est cette chape de pollution.
Alors, j'allais dire, je suis venu sans masque aujourd'hui pour parler au micro, mais en fait, j'en mettais pas souvent parce que j'aime tellement cette ville, je me dis que même avec la pollution, c'est pas grave, on vit avec. Oui, effectivement, on l'a entendu, on en a parlé tellement, hein, même sur RFI, de cette pollution qui mine les Pékinois, qui les déprime, hein, vraiment profondément. On avait fait un reportage sur les guerriers du brouillard. Ce sont des intellectuels. J'avais rencontré un journaliste, notamment du Beijing News, donc les nouvelles de Pékin, qui écrivait sur son blog, qui allait, avec d'autres, des militants, aller mesurer la pollution quand c'était encore interdit d'en parler, hein. Ces fameuses PM2,5, ce sont des microparticules qui rentrent dans les poumons, et donc ces guerriers du brouillard, ces intellectuels qui n'avaient pas le droit, à l'époque c'était tabou de parler de ça, allaient mesurer la pollution dans leur jardin, dans les rues. Et voilà, on avait rencontré ça. Alors on vit comme ça tous les jours au quotidien, Emmanuel, avec on voit beaucoup de masques aujourd'hui, c'est même tendance, c'est assez rigolo de voir ces masques de couleur très branchés, hein. Il y a des masques qui sont un peu chers pour les jeunes en tout cas, et puis on vit aussi avec un purificateur d'air dans les maisons. Nous on n'en avait pas, mais la plupart des expatriés en ont, c'est quand même assez cher, mais même beaucoup de Pékinois riches ont ces purificateurs d'air, à commencer par les dirigeants. On avait découvert que les dirigeants avaient ces purificateurs d'air, alors que c'était encore interdit de parler de la pollution jusqu'en 2011, donc. Et donc, on s'équipe de ces purificateurs. Et pour l'anecdote, moi, j'ai une copine qui s'appelle Catherine Mercier, qui était correspondante de la radio de la télévision canadienne à Pékin, qui parle parfaitement chinois, qui adore la Chine, qui est repartie au bout de 2 ans, entre autres, à cause de la pollution. Elle disait à Montréal, bon, je passe mes hivers devant la cheminée, à Pékin, je le passe devant le purificateur d'air. Alors, un purificateur d'air, c'est carré, hein, c'est pas très beau à voir, hein, dans la maison, quand même. Donc,
voilà. Mais il y a des Pékinois qui envisagent de quitter Pékin. Enfin, c'est-à-dire que ça a une incidence, y compris jusque-là, dans la vie quotidienne, la pollution aujourd'hui à Pékin.
Oui, on dit notamment qu'il y a des nouveaux bobos, hein. Il n'y a pas eu de hippies en Chine, mais il y a eu des bobos. Il y a des bobos aujourd'hui qui vont, par exemple, dans le sud de la Chine, dans le Yunnan, et qui pensent s'installer, qui fabriquent des petits commerces, parce que des jeunes, hein, notamment, qu'on en marre de la pression, pas simplement la pollution. C'est difficile de dire que la pollution fait partir les gens et fait partir les expatriés, parfois, mais les Pékinois, c'est difficile parce que c'est quand même le centre encore névralgique de la Chine, c'est le travail. Mais certains partent, effectivement, disent, c'est plus possible, la pression à la fois, toutes les pressions dont on va parler, hein, le travail, mais aussi la pression de la pollution. Donc oui, ça fait partir. Et on parle même d'une nouvelle capitale. Il y a des rumeurs qui disent qu'un jour, Pékin, tellement c'est grand, hein, si périphérique, les embouteillages, tellement...
Si périphérique autour de la ville.
Il faut imaginer. Hein.
Alors, il faut bien comprendre qu'on est au nord de la Chine, qu'on a un climat sec, très aride tout autour de la ville. Normalement, beaucoup de soleil toute l'année.
C'est fabuleux. Oui, moi qui suis...
On ne le voit plus.
Parisien, là, qui veut redevenir parisien, je trouve quand même que Pékin est formidable pour le soleil. On a des saisons, notamment l'automne, c'est magnifique, c'est ruelle sous le soleil. Vraiment, c'est
très
beau.
Mais on le voit encore, le soleil.
On le voit, mais de moins en moins à cause de la pollution. Donc, c'est un vrai problème, effectivement.
Mais en même temps, Pékin.
Parce que c'est une capitale du désert, effectivement, d'une certaine manière. C'est difficile. C'est semi-désertique autour. C'est pas très. Le Rebé, hein, la grande province qui entoure Pékin, quand on voit les vignes, c'est difficile. Il fait très froid. Et puis, c'est très sec. On est dans le nord, effectivement.
Donc, Pékin n'est que la 3e ville du pays, en même temps. Alors, certes, entre quoi 18 millions, 20 millions d'habitants.
Alors, ça, c'est très vrai. On dit qu'on veut partir de Pékin. Mais aller où? Pour aller où? Parce que toutes les grandes villes, vous prenez Chongqing qui fait 30 millions, enfin, l'agglomération de Chongqing, donc dans le sud, qui fait 30 millions d'habitants, hein, c'est pollué. Chengdu, dans le Sichuan, c'est pollué. Même Shanghai, aujourd'hui, est moins pollué, mais il l'est quand même. Donc, effectivement, pour aller où toutes les villes de Chine, aujourd'hui, ont ce problème d'une urbanisation galopante qui a entraîné la pollution.
Est-ce qu'on est dans une ville gratte-ciel comme Shanghai ou pas visuellement?
Alors non, justement. Alors, beaucoup d'expatriés, en tout cas, préfèrent Shanghai au premier abord parce que c'est un peu Londres, Shanghai, sans droit de vote. Mais enfin, c'est Londres avec des gratte-ciel.
Sans droit de vote, voilà, c'est bien résumé, Shanghai.
Avec des gratte-ciel, c'est très beau. Le nouveau Londres, en tout cas. Hein, et Pékin a moins de tours, en tout cas. Mais ce qu'il y a à Pékin, c'est que depuis les Jeux Olympiques, ils ont construit des bâtiments, moi je trouve magnifiques. Il y a aussi un Pékin moderne, c'était un peu un terrain pour les architectes à un moment, donc ils ont construit des belles tours aussi. Il y a un quartier du business, hein, comme souvent dans les villes asiatiques. Donc non, il y a aussi des immeubles tout à fait modernes, mais on reste quand même dans une ville plane, avec des cours carrés, des ruelles, même si elles sont détruites encore aujourd'hui. Il y a le quartier de la Tour de la Cloche, là ça fait hurler les Pékinois, qui va être en partie rasé, enfin une partie. Donc oui, ça continue les destructions, mais ça reste une ville quand on regarde qui est très plane, hein, par rapport aux autres villes de Chine.
Ces quartiers effectivement très planes cohabitent avec les tours à certains endroits. Ça s'entrechoque de façon très proche.
Toujours, mais oui, ça s'entrechoque, mais en même temps, c'est ce qui est assez fascinant, je trouve, c'est la culture à la fois de ces ruelles et de ces tours. Même sous les tours, on est dans l'esprit village. Moi, ce que je définis comme un esprit village.
Alors, esprit village, c'est vrai que ça peut surprendre nos auditeurs. Hein. Esprit village dans une ville de 18 ou 20 millions d'habitants.
Avec ses périphériques.
Voilà, mais on va y revenir. Qu'un esprit village ou vivre sous cloche, raconté par Stéphane Lagarde en direct sur RFI. C'est presque un bon dîner entre amis que vous nous avez apporté là à Pékin.
Oui, là parce que ce sont des... Alors ça, vous ne l'entendrez pas sur disque, c'est une reprise évidemment, mais on voit que ce sont des cuisiniers dans les ruelles de Pékin. Alors il faut imaginer une toute petite ruelle avec des lanternes rouges, l'odeur du charbon, hein, qui est... Si on parlait de pollution, hein, il y a toujours cette dépendance au charbon, donc on sent le charbon. Moi j'ai fini par aimer cette odeur en arrivant à Pékin. Ces petites ruelles, on arrive dans un restaurant du Yunnan. J'y allais souvent avec du poisson grillé, vous savez, ces salades de fleurs qu'on fait dans le sud de la Chine, dans le Yunnan, dans les montagnes. Et ce sont des musiciens qui n'ont pas vraiment réussi dans la chanson. Mais moi, je les trouve très doués. Mais enfin, on entend qu'ils ne sont pas encore, pas encore été produits. Ce sont des musiciens qui font de la cuisine. Donc, ils font,
ah oui,
ils font la cuisine aussi bien que la chanson. Mais c'est tellement convivial. Ils jouent en cuisinant, quoi, et puis en accueillant leurs convives. Donc voilà, l'esprit village, c'est ça aussi. C'est que... On peut être dans un quartier et se retrouver vraiment avec des cultures différentes. Pékin, c'est formidable pour le... Il y a toute la Chine à Pékin. C'est ça qui est extraordinaire. On a toutes les cultures. Vous allez sur une passerelle de Pékin, vous voyez un Tibétain vendre de l'argent, un Tibétain des plateaux du Sichuan. Et puis, il y a cet esprit des ruelles, moi, parce que j'ai vécu dans ces ruelles, dans ces routons, comme on les appelle. Emmanuel, c'est des gens qui sortent de leur maison en pyjama à toute heure du jour ou de la nuit, hein, qui vont parce que
le ventre à l'air, m'avez-vous dit, voilà, même parfois.
Ah oui, on appelle ça le ventre de Bouddha. Ça avait été interdit pendant les Jeux Olympiques. C'est quand on a trop chaud. Moi qui ai mangé pas mal de nouilles chinoises, je sais que je pourrais le faire. En tout cas, on relève son t-shirt sur le ventre et puis comme ça, on se sent bien mieux l'été parce qu'il fait très 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 chaud. Donc ça s'appelle le ventre de Bouddha. On est en pyjama dans la rue, complètement décontracté. Il y a aucun problème. Pourquoi?
Parce qu'on est dans le dans son quartier.
Dans son quartier, parce qu'il y a ce que j'appellerais la proximité des toilettes publiques. On va quand même, là, ça crée des liens. Il y a eu les toilettes publiques pendant des années, donc on est tous en rang. Il n'y a pas de porte dans les toilettes publiques, souvent. Et donc, on est tous l'un à côté de l'autre. Je ne sais pas si on peut raconter ça à la radio, mais une occidentale m'avait raconté l'anecdote. Par exemple, pour les filles, quand on change sa serviette hygiénique, des fois, il y a des échanges. Nous, on n'a pas celle-là. Voilà, ça va jusque-là. Avec une révolution aujourd'hui, quand même, parce qu'il ne faut pas rester que dans les clichés. Aujourd'hui encore, on est en pyjama dans les routons, mais il y a aussi une révolution. Moi, je l'ai mesuré pendant ces 4 ans. Il y a une explosion, par exemple, dans les grands magasins des rayons salle de bain et toilettes, justement, parce qu'aujourd'hui, la Chine devient riche. On sait que c'est un des pays, c'est la deuxième économie mondiale. Et donc, dans les ruelles également, on s'équipe en toilettes. Donc ça va se perdre, cet esprit village. Mais cette intimité des toilettes publiques fait qu'on se parle, qu'on se connaît. Moi, par exemple, dans mon routong, il y avait un coiffeur de rue, qui prenait jamais de vacances, qui était là tout le temps avec sa blouse blanche et qui coiffait les gens dans la rue. Il connaissait tout le monde. Certains disent qu'ils donnent aussi parfois à la police les choses qui vont pas, hein, qui peut être un surveillant.
Vivre sous cloche, voilà. Ça sera le deuxième tiroir de l'émission, effectivement, la chape de plomb. Alors, on a des questions qui nous parviennent sur le fil Facebook, notamment de Marvel, qui pose des bonnes questions de Brazzaville. Je vous les lis, hein, Stéphane. Marvel veut savoir, alors déjà il nous dit, vu à travers les médias, cette ville Pékin semble être fermée, très codée. Il veut savoir comment vivent les Pékinois par rapport à une ville occidentale comme Paris. Est-ce que cette ville est bouillante comme une ville africaine telle que Brazzaville? Alors déjà, si on se met à l'échelle soit d'un Brazzavillois, soit d'un Parisien.
Alors moi, Marvel, moi j'ai pas été à Brazzaville, je connais que Bamako par exemple en Afrique, donc je peux pas parler de Brazzaville, mais ce qui est sûr, c'est que il y a vraiment un côté africain. Ça, c'est les Chinois qui le disent, hein, et les Africains quand on les rencontre à Pékin. Il y a le côté sur les marchés, aller sur un marché chinois au centre de Pékin, c'est incroyable comment on négocie encore les légumes, on négocie les choses. C'est tout pareil, paraît-il. Et puis il y a cette effervescence qu'effectivement on ne retrouve pas à Paris. Ça c'est sûr, c'est beaucoup plus froid à Paris que
donc il y a ce côté latin. Donc les commerces ambulants, nous demande voilà. Marvel, oui, on les trouve.
Ah bah oui, on a encore aujourd'hui dans les routons, c'est assez formidable. Il y a des collecteurs de carton, des couteliers. Moi je connais un coutelier qui fait pour 5 kwai, donc moins d'un euro, qui vous aiguise vos couteaux. Il y a des rémouleurs, pardon, je crois que le terme c'est rémouleur.
Dire qu'on est en même temps dans le pays qui fabrique tout dans le monde entier, qui inonde la société de consommation par définition.
C'est vrai, mais en même temps il y a tous ces petits métiers qui perdurent et qui donc chaque fois je pourrais vous donner plusieurs métiers, mais il y a tous les petits métiers qui continuent.
Une autre question de Marvel à Brazzaville. Des différences de classe sociale sont-elles visibles, par exemple d'un quartier à l'autre?
Ah oui, là ça se voit encore. Alors moins que peut-être en Inde ou dans d'autres pays qui seraient comparables en termes de population. Mais non, la Chine ça se voit moins, mais ça se voit quand même. Oui, effectivement, vous allez dans le quartier des affaires et vous voyez les gens même à quelques rues, hein, puisque moi je dirais que les routongs, on parle des destructions des routongs des ruelles. C'est un peu des favelas aussi, les routons. Parce que pendant la révolution culturelle, favelas, c'est-à-dire les ghettos du Brésil, c'est-à-dire que dans les cours carrés, ces cours carrés où habitaient des bourgeois, hein, il faut dire les choses, sont installés plein de gens qui sont arrivés de l'extérieur. Il n'y avait pas assez de place, on n'avait pas d'immeubles, et donc ils sont installés là. Et donc on voyait, par exemple, dans mes routons, il y a un SDF qui est resté 2 ans dehors, que tout le monde aidait, en treillis, un ancien militaire, visiblement. lui ne ressemble pas du tout effectivement au jeune que l'on peut voir en Ferrari, hein, vraiment. C'est
donc,
la question d'un journaliste.
Pékin bling bling, ouais. Pékin SDF, Pékin Routong. Hein,
tout le monde cohabite, plus ou moins. Hein, y a quand même des jalousies, des ressentiments, hein, surtout quand les jeunes très riches ont des passe-droits et puis font n'importe quoi sur la route, par exemple. Ça fâche, surtout quand ils créent des accidents, par exemple.
Autre question de Marvel, est-ce que c'est facile pour un occidental de s'adapter, vous qui êtes resté 3 ans et demi, Stéphane?
Moi, je me suis senti comme un poisson dans l'eau, hein, très honnêtement. Mais après, il y a le côté aussi, effectivement.
Magnétophone sorti toute la journée.
Toute la journée, ouais, alors j'ai enregistré tout Pékin, je sais, j'ai des millions d'ambiances que j'ai pas utilisées.
Là, aujourd'hui. Et le regard des Pékinois sur un Africain qui décide de s'installer, le blanc de Marvel.
Bon, moi je crois que le racisme est partout. Hein, donc il y en a aussi, il ne faut pas le cacher. Moi je sais qu'un diplomate africain m'avait dit que c'était parfois difficile le regard des Chinois. Je pense qu'il y a une méconnaissance. Il n'y a pas plus de racisme en Chine qu'ailleurs, mais il y en a aussi. Et il y a une méconnaissance de l'Afrique quand même. Donc un regard un peu. Bon, à Canton, par exemple, il y a beaucoup d'Africains. Beaucoup m'ont dit qu'il y avait beaucoup de racisme, hein, notamment dans les bus. Mais là, à Pékin, moins, parce qu'il y a moins d'Africains. Mais il y a quand même ce regard parfois un peu déplaisant.
Vivre dans une ville sous cloche, Pékin, avec vous Stéphane Lagarde. Alors la cloche, la chape qui s'abat sur tout citoyen à Pékin, tout habitant, c'est la pollution. Mais il y a aussi cette cloche intellectuelle, cette parole qui est verrouillée et qui est sous cloche.
Oui, ben alors ça, oui, tout simplement la censure, hein, ça existe encore. Alors on voit, ça se traduit, pour le voir en image, on voit par exemple encore courir sur les murs, elles ont été rénovées, mais des grandes banderoles de propagande blanche et rouge partout dans Pékin. C'est ça, c'est la parole officielle qui vient dans les médias, qui est tentée d'être canalisée.
Il faut oublier que Pékin, c'est le centre du pouvoir.
Voilà,
c'est là que siège le pouvoir.
Ça reste la capitale des empereurs. Le comité central du parti communiste chinois est encore, ce sont encore des empereurs qui dominent toute la Chine, qui dirigent toute la Chine. Ça descend en pyramide. Et donc, par exemple, Pékin donne l'heure, je vous l'ai dit, jusqu'au Xinjiang, jusqu'à l'extrême ouest du pays. On a l'heure de Pékin partout. Et là, on entend de la musique qui arrive. Là, j'entends une fanfare.
On entend une cloche, là.
Ah oui.
Alors, rapport? Alors, d'accord, vivre sous cloche, mais encore.
Ben là, la cloche, c'est. À Pékin, moi, c'est pas les églises qui sonnent les cloches, ce sont les gares. Et notamment, ça, peu de gens le savent. Moi, j'habitais pas loin de la gare centrale de Pékin, donc la gare principale, il y en a d'autres. C'est assez fascinant d'entendre ça. Vous entendez, c'est l'Orient est rouge de Mao, la mélodie qui sonne les heures.
Vous pouvez nous le chanter, là?
Non, 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 non. Donc moi je trouve ça très beau, mais ça rappelle quand même aussi les horreurs de Mao, hein, cette chanson, enfin voilà. Et donc c'est toujours aujourd'hui le carillon des heures. Moi je trouve ça vraiment très beau, ça me marque, ça m'émeut même en l'entendant, puisque j'étais à côté de cette gare centrale. Et voilà, les heures qui arrivent, le gong traditionnel. Ça c'est la gare centrale de Pékin qui sonne encore aujourd'hui, l'une des plus mélodies les plus célèbres de la propagande communiste.
Mais comment ce verrouillage de la parole se mesure à la lumière de la vie quotidienne, Stéphane Lagarde? On a l'impression qu'on est surtout dans une vie de consommation effrénée, d'accès au confort, à la modernité.
C'est vrai, les deux sont vrais.
Alors, finalement,
mais par exemple, vous allez dans
encore palpable.
Bah, par exemple, vous allez dans un café internet à Pékin, alors tout le monde a internet chez soi, mais dans un café internet, il faut donner sa pièce d'identité. On ne peut pas accéder à l'ordinateur sans donner une pièce d'identité. Bon. Et puis, on est surveillé, le net est très verrouillé. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes Pékinois qui ne sont pas du tout dans la politique. Hein. Vous savez, il y a eu les événements la répression du 4 juin 89 qui est encore très forte, qui a assommé tout le monde et qui fait que les jeunes ne font plus de politique, mais en tout cas, n'en parlent plus beaucoup, mais on sait que ça existe, on se connaît la censure.
Voilà, et donc une cohabitation entre ce verrouillage et les scandales qui débordent sur Internet, l'indignation aussi de la société civile sur bon nombre de sujets de vie quotidienne, notamment la consommation. Vous restez avec nous, Stéphane Lagarde. Vivre dans une ville sous cloche, Pékin, c'est une émission à tiroir, à double fond, le tout dans un dédale de rue. On se retrouve juste après le flash chez 7 milliards de voisins, dans un peu plus de 3 minutes, avec vos questions et vos commentaires, les voisins et les voisines.